Laissez-moi présenter d'abord Patrick Peter. Certains d'entre vous, j'en suis persuadé, le connaissent, puisqu'il est venu déjà deux fois. Une fois nous parler de l'univers en rebond, et une fois nous parler d'un sujet assez analogue à celui-là. C'est peut-être d'ailleurs exactement le même, sauf que tu en as parlé il y a une dizaine d'années à peu près, et que la science qui avance, avance vite, et parfois on dynamite les concepts, on les remplace par d'autres, on affine un peu nos idées. Et c'est pour ça que je suis persuadé, j'en suis convaincu même, cette conférence est pertinente et va nous passionner. Alors, Patrick Peter travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a commencé sa thèse, il a fait sa thèse en 92 avec Brandon Carter, dont le nom vous est sans doute très familier, puisque c'est lui, entre autres choses, parce que je pense que c'est réducteur de dire qu'il est le père du principe anthropique, mais c'est vrai qu'il en est le concepteur. La thèse de Patrick portait sur les cordes cosmiques supraconductives, c'est ça ?
Supraconductrices, oui.
Conductrices, voilà. Et ensuite, il a fait un postdoc chez Stephen Hawking. Et en 95, il rejoint le CNRS, il est recruté au CNRS et travaille de 95 jusqu'à 1999 à l'observatoire de Meudon, au DARC. Alors, je ne sais jamais ce que DARC veut dire, peut-être tu sauras.
Département d'astrophysique relativiste et de cosmologie.
Voilà, merci.
Mais ça n'existe plus, de toute
façon. Ça n'existe plus. Donc, il rejoint l'Institut d'astrophysique en 1999. Et là, il monte une équipe de cosmologie théorique, le GRECO, qui fonctionne, qui est une des meilleures équipes que nous ayons à l'Institut d'astrophysique de Paris.
Et moi.
Tourné sur des problèmes donc théoriques. Et personnellement, Patrick Peter travaille sur différents thèmes, tous reliés à la cosmologie, physique des particules et cosmologie, défauts topologiques, cosmologie quantique, et également alternative à l'inflation. Alors, il n'est pas simplement chercheur, il s'intéresse, et oui, pas seulement chercheur, je veux dire, rêvé et cloué sur sa paillasse, mais il s'intéresse aussi à la diffusion des connaissances. Et à ce titre, eh bien, il a déjà commis un ouvrage dont tu parleras, hein, qui a déjà été publié il y a un certain temps, mais qui est toujours très pertinent, des défauts de l'univers. Et un autre livre, alors là, beaucoup plus costaud, et j'en parle parce que il a déjà été publié il y a quelques années, en collaboration avec Jean-Philippe Usan, également de l'Institut d'astrophysique de Paris. Son titre, Cosmologie primordiale. Mais ça peut intéresser certains d'entre vous, je ne sais pas. En tout cas, il s'adresse essentiellement à des gens qui sont plutôt en thèse. Et c'est le livre que Patrick et Jean-Philippe auraient aimé avoir lorsqu'ils étaient eux-mêmes étudiants. Voilà, donc ils ont senti ce manque et ils l'ont comblé, en tout cas pour les autres. C'est donc une très bonne chose. Et c'est la deuxième édition, revue et augmentée, qui vient de sortir il y a quelques mois.
Il y a 2 mois, même pas.
2 mois. Voilà. Donc, merci aux internautes et je vous laisse. Maintenant, je te laisse la parole. Merci.
Bien. Merci, Daniel. Merci à vous d'être venu. Je vais essayer de vous faire une présentation. Alors, pour tous ceux qui étaient là le mois dernier, la présentation que je vais faire, je n'ai pas une culture grecque et latine aussi étendue que l'orateur du mois dernier. Donc, mon exposé pourra vous paraître peut-être un peu plus rustique que le sien. En tout cas, certainement beaucoup moins philosophique. Mon propos va être essentiellement le but de cette conférence va être d'illustrer avec des exemples qui sont relativement proches l'un de l'autre le rôle de la cosmologie observationnelle en physique des particules. C'est-à-dire c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement. La physique des particules, c'est quelque chose qui concerne les accélérateurs. La cosmologie, surtout la cosmologie observationnelle, c'est l'étude de l'univers dans son entier. On fait aussi de l'astrophysique quand on veut regarder des morceaux de l'univers. Donc c'est l'infiniment grand, comme on dit en général, et ça se pratique dans les télescopes. Donc on regarde ça dans des télescopes, en particulier donc ici évidemment le Hubble Space Telescope. La physique des particules, quant à elle, ça se fait, donc c'est l'infiniment petit, ça se fait au travers de microscopes, et les meilleurs microscopes qu'on connaisse à l'heure actuelle, ce sont les accélérateurs de particules. Ici, le grand accélérateur du CERN, ce qu'on appelle le grand accélérateur de Hadron, dont on nous dit beaucoup de bien, et j'en reparlerai dans peu de temps. Alors, en physique des particules, et en physique en général, en physique fondamentale, Je vais d'abord m'excuser parce que dans ce qui va venir, il va y avoir deux ou trois équations, mais rassurez-vous, ça n'est rien de grave. En physique fondamentale, on a l'habitude de travailler avec des systèmes d'unités bizarres. Et ces systèmes d'unités bizarres nous viennent de certaines constantes qui existent dans la nature. Alors la première constante à laquelle on pense tout naturellement, c'est la vitesse de la lumière qui nous vient de la théorie de l'électromagnétisme, elle-même venant du 19e siècle, donc c'est James Clerk Maxwell qui met cette théorie au point, et dans laquelle il constate que la vitesse de la lumière représente la vitesse de propagation des perturbations des ondes électromagnétiques. C'est donc pas c'est pas une vitesse comme une autre, il arrive à la reproduire, à la calculer, à l'aide de constantes qui n'ont rien à voir. Donc on en déduit que c'est une sorte de constante. Le problème, c'est qu'évidemment, si c'est une constante, c'est en désaccord avec la relativité galiléenne. Il y a tout de suite un problème entre donc la relativité galiléenne, qui vous dit que si vous êtes à une certaine vitesse, comme Galilée lui-même le dit, si vous êtes dans un train ou dans un bateau plutôt, parce qu'à l'époque de Galilée, les trains, ça abusait pas, mais si vous êtes dans un bateau à une certaine vitesse et que vous lancez quelque chose avec une autre vitesse, vous additionnez les vitesses pour avoir la vitesse résultante vue depuis le bord du canal. Maintenant, si la vitesse de la lumière est la même, ça nous dit que si vous lancez un rayon lumineux quelque part, que vous mesurez sa vitesse, vous voyez, ça va vous donner 300 000 km par seconde à peu près. Si vous faites ça sur la Station Spatiale Internationale, qui est, si mes souvenirs sont bons, quelque chose qui tourne à quelque chose comme 27 000 km par heure, ou quelque chose comme ça, donc qui fait 15 tours de la Terre par jour, donc ça fait quand même une vitesse assez grande, que vous faites exactement la même manip, vous mesurez la vitesse de la lumière, et vous obtenez exactement la même valeur de 300 000 km par seconde. Donc c'est bien une constante, et en fait c'est une constante qui nous permet maintenant de définir le temps et l'espace de la même manière. Donc on parle de l'espace-temps, et on calcule les longueurs et les temps avec la même unité, que ce soit des mètres, des secondes ou des années-lumière, qui vient de la lumière évidemment. Donc tout cela est résolu grâce à Einstein, donc qui nous introduit la relativité, cette fois-ci la relativité restreinte. Vous voyez qu'Einstein avait aussi une position sur l'univers, et pas que. Et en tout cas, il réconcilie tout ça, et on a une constante qui est la vitesse de la lumière. Dans les constantes, on a une deuxième constante qui est la constante de Planck. Alors là, cette fois-ci, c'est la mécanique quantique qui est discutée par cette constante. Vous en voyez la valeur quand on l'exprime en unité normale, donc les joules, les secondes, les énergies, les kilos, les grammes et ces choses-là, c'est une valeur extrêmement petite. Vous voyez, c'est 10⁻¹⁴, c'est ridiculement petit. Et ça ne fait que dire simplement que la mécanique quantique ne décrit, en gros, que les mécanismes extrêmement de toute petite taille. C'est la physique microscopique qui est la constante de Planck, révèle le comportement ondulatoire et corpusculaire, comme on disait à l'époque. Voilà, donc Max Planck, que vous voyez ici, qui est un peu moins souriant qu'Einstein. On ne présente plus Sir Isaac Newton et sa pomme pour la constante de Newton, donc la gravitation. La gravitation est décrite là encore par une autre constante qui nous dit quelle est la force de gravitation qui agit sur nous venant de la Terre, que ce soit donc une pomme qui tombe ou que ce soit la Lune qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà une constante supplémentaire. Et pour finir, une constante à laquelle on ne pense pas toujours, constante qui nous est due à Ludwig Boltzmann, donc la constante de Boltzmann, qui est une constante thermodynamique qui permet de calculer quand on connaît des énergies ou des masses, hein, je vous rappelle que E égale mc2, donc énergie ou masse, comme la vitesse de la lumière est une constante, c'est la même chose pour nous. Quand on a une énergie ou une masse, grâce à la constante de Boltzmann, on peut traduire ça en température. Alors en fait, c'est modérément étonnant parce que la température, c'est un concept qui est lié à la vitesse des particules dans un gaz quelconque. Plus les particules vont vite, essentiellement, plus leur température est élevée. Et on relie l'un à l'autre avec cette constante de Boltzmann. Juste pour la petite histoire, Boltzmann est aussi un fervent défenseur des idées atomistes qui, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, n'était pas encore tout à fait bien prise au sérieux. Ce sera grâce à Einstein que les choses seront vraiment bien prises au sérieux. Et il est tellement en désaccord avec ses collègues qu'il fait d'abord une première tentative de suicide, puis il se réussit, donc en 1906. Donc ça pour dire qu'il y a vraiment des chercheurs qui prennent leur recherche très à cœur. Alors avec toutes ces constantes, on peut arriver à fabriquer des quantités élémentaires. Alors, qu'est-ce que j'appelle des quantités élémentaires ? Par exemple, une masse. Alors j'ai donné la formule, ça n'a pas très très grand intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que j'invente pas, hein, ça existe vraiment. Donc on peut calculer une masse, encore une fois donc une énergie aussi, puisqu'encore une fois E égale mc2, une masse qu'on appelle la masse de Planck. Puis quand on continue à jouer avec ces quantités, ben, on passe de la masse de Planck au temps de Planck. Alors pourquoi on a donné à Planck la paternité de ses unités? Ça, j'aimerais bien le savoir. Je sais pas. Ça aurait pu s'appeler les temps de Newton aussi, ou d'Einstein, mais non, c'est Planck. Peut-être parce que c'est le dernier à arriver chronologiquement. Donc, encore une fois, on peut traduire le temps en espace. Donc là, il y a la longueur de Planck. Et pour finir, si on utilise la constante de Boltzmann, on fabrique la température de Planck. Alors, avec tout ça, donc la masse de Planck, le temps de Planck, la longueur de Planck et la température de Planck, l'énergie de Planck, en fait tout ça de Planck, ça nous donne un ensemble d'unités élémentaires qui sont des unités physiques, parce qu'elles sont basées sur des constantes fondamentales. C'est des unités qui ont un vrai sens physique, beaucoup plus que le mètre, par exemple. Vous voyez, quand on décide que le mètre ou le kilo est défini par un objet qu'on a fabriqué nous-mêmes, ça veut pas forcément dire grand-chose. Le seul problème avec ces unités physiques, c'est qu'elles ont des valeurs absolument grotesques. C'est-à-dire que le temps de Planck est un temps ridiculement court, la longueur de Planck est ridiculement petite. En gros, c'est totalement inutilisable. Quant à la température de Planck, elle est absurdement élevée. Donc, ce sont des paramètres, des valeurs dont on ne peut pas se servir réellement au quotidien. Donc, il vaut mieux utiliser d'autres valeurs. Mais par contre, on voit bien qu'elles doivent, voire qu'elles peuvent, ça paraît certain, mais on pense bien qu'elles doivent jouer un rôle particulier. Elles ont un rôle spécial à jouer dans la nature. Donc ça, c'est... Donc maintenant que j'ai fait ce petit aparté, je vais voir de quelle nature je vais parler. Il y a deux types de nature qui vont m'intéresser, comme j'ai parlé, de cosmologie d'un côté et physique des particules de l'autre. Alors rapidement, pour la cosmologie, vous avez dû voir ça déjà des centaines de fois. Quand vous regardez une carte du ciel, ce qu'on appelle le fond diffus micro-ondes, c'est un fond qui nous vient, un reste d'explosion, enfin entre guillemets d'explosion du Big Bang, j'y reviendrai. Voilà une carte du ciel à haute résolution. Alors ça paraît pas, mais c'est une carte du ciel à haute résolution, c'est-à-dire au 1/10 millième en termes de précision. Vous savez tous qu'après, quand on regarde les données WMAP ou Planck, je les montrerai tout à l'heure, quand on raffine un peu plus, on a une meilleure précision que ça, mais au 1/10 millième, ça fait ça. Et donc, on se sent autorisé à en déduire que l'univers est isotrope. Isotrope, ça veut simplement dire que quand je regarde dans une direction ou dans une autre, j'obtiens la même chose. Là, ce que je représente, c'est la température, encore une fois, puisqu'on peut exprimer une température, on peut exprimer un temps, on peut exprimer une longueur, n'importe quoi. Donc la température moyenne, c'est-à-dire l'énergie moyenne des photons du fond diffus micro-ondes qui nous arrivent, en fonction de l'angle où on les observe. Donc on voit bien que c'est parfaitement isotrope. Et évidemment, quand c'est isotrope, il y a plusieurs possibilités. Quand on définit l'isotropie, vous voyez, soit on peut être placé au centre de l'univers, hein, avec un retour en force d'une sorte de version biblique de la chose, soit au contraire on peut se placer adopter un principe de médiocrité, où on est plutôt dans l'autre option, où vous voyez l'univers est essentiellement toujours partout pareil, et partout où on regarde ça donne la même chose. Vous voyez, ces deux options là satisfont toutes les deux à l'isotropie observée. Alors on peut s'entre-déchirer pendant des siècles pour savoir quelle est la bonne option. On peut aussi suivre l'exemple de Galilée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de philosophie, mais on fait des observations. On fait de la science, autrement dit, on ne discute pas, on ne s'entre-déchire pas, on décide de quelque chose, on regarde. Alors donc, on regarde le ciel, en l'occurrence. Alors bon, en plus, j'en profite, puisqu'on est à l'Institut d'Astrophysique de Paris, si je n'étais pas capable de montrer au moins 2-3 photos d'objets qui sont obtenus, peut-être pas ici, mais enfin, au moins des objets astronomiques, hein, ça serait dommage. Donc voilà, on regarde un petit peu sur différentes échelles. Alors évidemment, quand on regarde aux petites échelles, on voit de très très fortes inhomogénéités, hein, des galaxies, des amas de galaxies, puis on regarde sur des distances un petit peu plus grandes, on commence à voir qu'il y a de plus en plus d'objets un peu partout. Sur des distances vraiment beaucoup plus grandes, là, il commence à apparaître quelque chose d'un peu particulier. Et finalement, sur les distances les plus grandes qu'on puisse observer, on s'aperçoit que, à peu de choses près, l'univers est homogène. Sur les très très grandes distances. Hein, donc voilà, l'univers est homogène. Autrement dit, puisqu'on a cette homogénéité, eh bien donc, j'ai dit que j'avais ces deux cas de figure possibles une fois que j'avais établi l'isotropie. Une fois que j'ai l'homogénéité, j'en ai plus qu'un. Donc voilà. La situation que l'on croit être correcte, qui est de cette configuration qui est isotrope et homogène. Donc je disais donc, quand on pour récapituler, on a l'isotropie, on a une isotropie de l'univers, qui est là, qui est bien vérifiée, à laquelle on rajoute l'homogénéité, donc qu'on vient de discuter. Donc les deux sont établis sur des bases observationnelles. Hein, c'était au départ, alors c'était au départ les deux d'ailleurs, isotropie plus homogénéité, c'était le principe cosmologique dans les années 20 à peu près. C'était essentiellement la chose la plus simple qu'on pouvait faire, donc c'est ce qu'on avait fait. Mais a priori, ça n'avait pas lieu d'être. Ça a été maintenant bien vérifié au niveau observationnel. Une fois qu'on a ça et qu'on rajoute la relativité générale, parce qu'on va décrire la gravitation, la loi de la gravitation par la relativité générale. Je vous dis pas comment parce que c'est pas très intéressant, c'est des détails techniques. Eh bien, on obtient automatiquement que l'univers est en expansion. Et ça a été observé par Edwin Hubble en 1929. Vous pouvez voir une photo d'Hubble à un temps maintenant révolu où on était autorisé à fumer dans son bureau. Maintenant, c'est plus le cas. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'expansion de l'univers? Alors, l'expansion de l'univers, on voit souvent, on lit souvent, on entend souvent l'idée suivant laquelle nous vivons à la surface d'un ballon qui gonfle et que, voilà, c'est ça, c'est ce qui représente l'expansion de l'univers. C'est une analogie qui peut ne pas être complètement inintéressante, mais qui pose un problème parce que la première question que les gens posent immédiatement dans ce cas-là, c'est le ballon gonfle dans quoi? Ici, on peut faire une représentation, je l'ai fait ici en deux dimensions, mais on peut le faire en trois dimensions avec un quadrillage, si on veut. On peut dire qu'il n'y a pas, on gonfle pas dans quelque chose, l'expansion de l'univers, c'est l'univers qui gonfle tout seul. C'est-à-dire, pour ne pas chercher à se faire d'image, on peut juste se faire cette représentation-là, où on voit, si on prend un ensemble de points à un temps T1 donné, ici, je fais évoluer cet ensemble de points donnés, puisque je dis simplement qu'il y a une expansion, ça veut dire que tous les points s'éloignent les uns des autres. Vous voyez, entre T1 et T2, on est passé de la configuration bleue à la configuration blanche. Et donc les points s'éloignent les uns des autres. Et on peut voir maintenant, si on se place, si on suppose que nous, on est donc en haut de ce triangle, eh bien maintenant, on était sur le triangle blanc, enfin on était sur le point du haut, donc on a vu les objets s'éloigner, et on voit bien que la première ligne s'est éloignée un petit peu, et la deuxième ligne s'est éloignée un petit peu plus. Autrement dit, ce dont on s'aperçoit, c'est que la vitesse d'éloignement des objets est proportionnelle à la distance à laquelle ils sont, avec une constante entre les deux, qu'on a appelée H, évidemment en hommage à Hubble, puisque son nom commence par un H. Alors, voilà ce que les observations de Hubble de 1929. Comme vous voyez, on peut trouver une corrélation. On peut aussi dire que c'est un peu gonflé d'y trouver une corrélation. Enfin bon, c'est les données de 1929. Mais donc vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais en même temps, comme elles ont maintenant près d'un siècle, vous pouvez maintenant plutôt accepter celles-là de données qui sont un petit peu mieux. Et il y en a évidemment beaucoup mieux. Ça date de 96, mais c'est parce que j'ai été trop feignant pour aller rechercher des nouvelles données plus propres. Mais globalement, voilà ce qu'on obtient. Petit détail. J'ai dit que on regardait d'en haut et on voyait cette vitesse d'expansion. Si vous regardiez sur un autre coin, vous verriez évidemment strictement la même chose. Là, c'est bien le principe cosmologique, c'est-à-dire homogénéité et isotropie. Donc, on voit bien dans toutes les directions, c'est la même chose, et où qu'on soit, on voit la même chose. C'est bien ce que veut dire l'expansion. Alors, j'en profite aussi pour rappeler que l'expansion de l'univers, c'est quelque chose qui s'applique sur les très grandes échelles. On peut lire de ci, de là, des gens qui pensent, par exemple, qu'il y a de l'expansion dans le système solaire, des gens qui pensent que la Terre était plus proche du Soleil dans le passé parce qu'il y a eu expansion de l'univers. C'est complètement faux, bien évidemment. La Terre et le Soleil étaient à une distance qui n'est pas du tout donnée par l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, c'est valable sur des distances considérablement plus grandes. Alors voilà les trois types d'expansion possible. Alors, quand on résout les équations d'Einstein, on s'aperçoit qu'il y a trois solutions possibles, dépendant en gros de la structure spatiale, de la coupe spatiale de l'espace. Bon, c'est pas très très important. Il y a un univers à courbure positive, négative ou courbure nulle. Enfin bon, ça c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est de voir que toutes les courbes ici qui représentent donc les distances caractéristiques entre différents objets en fonction du temps. Et donc, nous, on est le point rouge sur ces courbes. Eh bien, toutes ces distances, elles changent avec le temps. Et elles changent, comme vous le voyez, toutes de la même manière, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas au même point, mais toutes, elles passent par zéro. Ça veut dire que l'univers, quand on regarde, puisque l'univers est en expansion, en fait c'est très simple, hein, l'univers étant en expansion, quand on regarde dans le passé, eh bien tous les objets se rapprochent les uns des autres. Donc il devient plus petit. Autrement dit, tout ont une singularité à l'origine, j'en ai déjà parlé une fois, mais bon. Donc voilà, l'univers devient de plus en plus petit quand on remonte dans le temps. Alors, une taille plus petite, ça veut dire une densité plus grande. Si la taille est plus petite, il y a plus d'objets dedans. Alors, quand il y a plus d'objets dedans, les objets se tapent plus souvent les uns dans les autres, ça veut dire qu'il y a des interactions plus fortes, plus énergétiques. Comme les interactions sont plus énergétiques, ça veut dire que les objets vont plus vite. Et comme ils vont plus vite, je vous ai dit que la vitesse était reliée à la température, ça veut dire que la température est plus élevée. Et donc, quand on regroupe tout ça ensemble, vous avez vu, jusqu'à là, on a pris vraiment la relativité générale, des observations, et puis on regarde un petit peu ce qui se passe, et on en déduit qu'il existe une histoire thermique, une histoire énergétique de l'univers. Donc on a toute cette histoire-là. Alors vous allez me dire, j'ai pris du temps pour arriver là, mais je pense que c'est important de bien situer dans quel cadre on se place. Et je reviens maintenant, puisqu'il y a une histoire énergétique, une histoire thermique, je reviens maintenant à mes constantes fondamentales, et j'ai la température de Planck. Et maintenant, pour vous dire à quel point c'est un peu curieux, c'est voilà, la température de Planck, ça va être la température à laquelle on va définir le moment du Big Bang. Donc on va dire, quand la température de l'univers est égale à la température de Planck, c'est le Big Bang. Donc voilà, mettons que c'est à ce moment-là. Et maintenant, quel est le reste de l'histoire de l'univers? Eh bien, c'est tout ça. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses à voir dans l'histoire de l'univers. Alors, vous voyez que tout en haut, c'est donc aujourd'hui. Et entre aujourd'hui et le temps de Planck, l'époque de Planck, c'est à peu près 13,7 milliards d'années. Alors, il y a tout un tas d'événements sur lesquels je ne vais pas m'apesantir, mais globalement, il y a quand même deux échelles qui vont être intéressantes. D'abord, la première des échelles, c'est ce qu'on mesure au LHC. Alors, on nous parle beaucoup du LHC ces derniers temps. On nous parle du boson de Higgs, j'y reviendrai. Que pour une raison que j'ignore, là encore, on appelle occasionnellement la particule de Dieu. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais enfin bon. On nous parle aussi au LHC de recréer les conditions du Big Bang. Comme vous pouvez voir, on en est quand même loin des conditions du Big Bang. Il reste quand même la moitié entre le Big Bang et maintenant, en échelle logarithmique, mais quand même, il reste une bonne distance à parcourir entre le LHC et le Big Bang. Mais alors, voilà, maintenant ça c'est les données, les observations de WMAP. Donc c'est la carte du fond diffus cosmologique. Quand on le regarde, à une meilleure précision, c'est-à-dire au lieu d'être au 10 millième, cette fois-ci, on est au 100 millième. Donc au 100 millième, on s'aperçoit qu'il y a des petites fluctuations entre les différentes caractéristiques dans le rayonnement. Ces différentes caractéristiques, en l'occurrence, c'est des températures, mais ça pourrait être n'importe quoi, c'est des énergies caractéristiques de photons. S'il y a des énergies caractéristiques de photons différentes en différents points, ça veut dire, en gros, que dans ces différents endroits, il y avait plus de densité d'énergie qu'à d'autres. Et la densité d'énergie, en relativité générale, c'est ça qui va créer ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Autrement dit, avec cette carte qu'on voit là, on sait que cette carte, c'est elle qui va initier, c'est celle qui nous donne les conditions initiales pour initier toute la formation des grandes structures dans l'univers. Donc je ne sais pas si ça va passer, voilà. Donc quand on fait évoluer un petit peu, évidemment c'est pas une vraie simulation numérique, mais quand on fait évoluer la carte, voilà ce qui se passe. Donc on regarde sur un endroit précis, dans un champ bien précis, et puis tout d'un coup, eh bien comme c'était à un endroit où il y avait un petit peu plus d'énergie qu'ailleurs, vont apparaître les étoiles, voilà. Puis les étoiles vont se regrouper en galaxies, en amas de galaxies. Enfin ensuite c'est à voir comment ça va se passer. Mais globalement, voilà toute la structure de l'univers va suivre directement et très simplement des conditions initiales qu'on a calculées. Et alors évidemment, ces conditions initiales, on les a mesurées, on les a observées, donc grâce à WMAP, ici, et ce que j'ai utilisé, c'est un film de propagande de WMAP, évidemment. Donc, voilà, pour évidemment, Planck, dont les données vont être analysées ici, va nous donner des informations au moins aussi importantes et probablement beaucoup plus, évidemment, hein, je ne peux pas dire le contraire étant ici. Mais vous voyez que avec Planck, globalement, on arrive à vous voyez, l'échelle du découplage. Donc on a l'échelle du LHC qui est en bas, l'échelle de Planck et de WMAP qui est là. Comment ça se passe en pratique? Donc on a vu, Je vous ai montré une sorte de petite animation de la chose, mais on peut le faire réellement. Alors, est-ce que ça va marcher, ça? Oui, voilà. Ça, c'est une simulation qui est faite ici. Donc, on regarde la matière noire. Cette fois-ci, c'est pas mon propos, mais voilà, quand vous regardez l'évolution de la matière noire, vous voyez que dans une tranche d'univers, ici, vous voyez, vous faites apparaître des régions qui vont donner lieu à des amas de galaxies. Donc, vous pouvez faire évoluer tout ça avec les lois. Ça, par contre, c'est des simulations numériques. Donc, avec les lois connues de la physique. On prend des conditions initiales telles qu'elles nous sont données par les données WMAP. Et on les fait évoluer simplement avec les lois de la physique dans un énorme ordinateur, évidemment. Donc, ça, c'est une simulation par Stéphane Colombier et ses collaborateurs. De la même manière, vous pouvez aussi regarder... Est-ce que ça bouge tout seul? Oui. Des simulations maintenant, cette fois-ci, pour le gaz. Donc ça, vous voyez tout d'abord le gaz. Donc là, les petites choses que vous voyez qui tournent comme ça les unes autour des autres, ce sont des galaxies, hein, des vraies galaxies. Enfin, c'est une simulation numérique, mais on voit qu'on arrive quand même à reproduire des choses qui sont vraiment très proches de la réalité, de ce qu'on peut observer, du moins. La même chose en température, si on est capable de regarder, je pense, en rayon X ou dans des zones comme ça. On peut regarder donc les zones en température. Tout ça, c'est pour pouvoir comparer ensuite aux données. On fait une simulation numérique et on la compare ensuite aux données observationnelles, c'est-à-dire quand on arrête la simulation, on regarde quelle est la distribution observée. Et là, maintenant, ici, c'est la métallicité, c'est-à-dire c'est vraiment les éléments plus lourds que l'hélium. Alors, je crois que les astrophysiciens appellent des métaux tout ce qui est plus lourd que l'hélium. C'est une définition relativement vaste pour un métal, mais enfin bon, c'est voilà donc ce genre de choses qu'on peut observer. Donc ici, c'est Christophe Pichon qui a eu la gentillesse de me donner ce film de simulation. Donc, pour reprendre sur l'histoire de l'univers par rapport à notre connaissance, je disais que voilà, donc à partir de WMAP jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la recombinaison jusqu'à maintenant, on est capable de faire des simulations numériques qu'on compare aux observations et tout marche magnifiquement bien. Maintenant, il reste à combler un autre intervalle qui est celui donc entre la recombinaison et ce qu'on observe dans le LHC. Alors là, c'est là où ça devient intéressant parce que là, c'est la physique des particules qui va rentrer en ligne de compte. Et la physique des particules, curieusement, on peut la résumer en un seul transparent. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on sait sur la physique des particules. Vous avez toutes les particules, toutes les espèces de particules identifiées. Il y a trois générations de particules. Alors en fait, nous, on est fait essentiellement de la première génération de particules. Il y a des leptons, des quarks, il y a donc trois générations de ça. Il y a des particules messagers qui transmettent l'information entre les différentes interactions. Je vais y revenir. Et puis il y a deux particules là-dedans qu'on n'a pas vues. Enfin, plus ou moins d'ailleurs qu'on n'a pas vues. L'une d'elles, c'est le graviton. C'est-à-dire ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, c'est la particule qui est supposée être le messager de la gravitation. Et quand je dis qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu en direct. On en a vu les conséquences parce qu'on a des pulsars binaires qui tournent, et quand ils tournent autour l'un de l'autre, quand ils perdent de l'énergie par rayonnement gravitationnel, en perdant de l'énergie, ils accélèrent. On peut donc calculer l'augmentation de leur période et comparer au calcul de relativité générale dû au rayonnement gravitationnel, et ça marche magnifiquement bien. C'est une des deux expériences les plus précises en physique. Il y a deux théories très très précises en physique. L'une d'elles est la relativité générale, qui vous donne ça. C'est précis à 10-12 près, et c'est ce qui a d'ailleurs donné le prix Nobel pour Taylor et Hulse en 1993. Donc c'est quand même pas du petit travail. Et puis l'autre particule qu'on n'a pas vue, c'est le boson de Higgs. Donc on en entend parler. Évidemment, au LHC, on a de bons signes comme quoi on aurait vu le Higgs au LHC. Pour l'instant, ce dont on est sûr, c'est qu'on a vu Peter Higgs au LHC. Quant à son boson, on peut raisonnablement supposer qu'on l'ait vu, mais c'est pas du 100% certain. Alors maintenant, c'est bien gentil de dire que je résume toute l'interaction, toute la physique des particules en un transparent avec les différentes particules. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quelles sont ces particules et qu'est-ce qu'elles veulent dire? Donc je vais vous résumer rapidement les interactions. J'ai commencé par les deux premières interactions que tout le monde connaît, a priori, la gravitation. Donc c'est celle qui tient, comme j'ai dit, qui fait tomber les pommes sur la tête de Newton, mais qui aussi permet de tenir lié le système gravitationnel de le système solaire ou ces choses-là. Il y a évidemment l'électromagnétisme. Alors, en général, chacun sait que l'électromagnétisme et la gravitation, c'est à peu de choses près la même chose. L'électromagnétisme, l'électricité, le magnétisme, unifiés en une seule et unique interaction par Maxwell en électromagnétisme. C'est important, cette notion d'unification, parce que c'est pas toujours très clair qu'au départ, ce sont vraiment deux interactions, l'électrique et le magnétique. Alors, il y a deux autres interactions qu'on connaît pas bien, en général, que les gens ne connaissent pas bien. La première, c'est l'interaction forte. L'interaction forte, c'est dommage qu'on la connaisse pas bien, parce que c'est grâce à elle qu'on existe, là encore. C'est l'interaction qui lie les noyaux entre eux, qui est l'interaction qui permet la stabilité nucléaire. L'interaction ici qui relie aussi les quarks à l'intérieur des noyaux, à l'intérieur des protons et des neutrons, qui vraiment, c'est elle qui donne la structure de la matière. La grande stabilité de la structure de la matière vient de l'interaction forte. Et puis évidemment, il y a l'interaction faible, qui, comme son nom l'indique, est un petit peu plus faible, et heureusement, parce que c'est aussi elle qui est responsable de radioactivité, et en particulier donc de désintégration de certains éléments lourds. Donc les deux sont essentiellement en compétition entre l'interaction forte et l'interaction faible. Et alors, j'ai dit que alors je suis désolé pour ce diagramme qui est en anglais, j'ai pas eu le temps de le traduire, mais quand on regarde maintenant ces différentes interactions, j'ai dit qu'il y a quatre interactions, et quelles sont leurs forces relatives. J'ai parlé de l'interaction forte et l'interaction faible. On a bien compris, on comprend assez facilement que l'interaction forte est plus forte que l'interaction faible, puisqu'on a appelé ça comme ça, c'est à peu près clair. Maintenant, en fait, il s'avère que l'interaction dépend de l'énergie des particules qui interagissent. C'est souvent, enfin, c'est pas absurde de penser comme ça, mais en tout cas, c'est clairement vérifié maintenant aussi dans les accélérateurs. Et une interaction, ça dépend donc de l'énergie caractéristique. Comme j'ai dit, une interaction, si ça dépend de l'énergie, ça dépend de la température. Et si on est dans un ensemble thermique, comme l'univers par exemple, ça dépendra donc de la température. Et l'interaction va, l'intensité relative des différentes interactions va varier avec la température. Par exemple, les interactions électromagnétiques et les interactions faibles. L'interaction faible est plus faible que l'interaction électromagnétique, comme vous pouvez le voir, à basse énergie, à basse température. Et puis, si vous augmentez la température, c'est-à-dire si vous accélérez les particules, c'est à ça que servent les accélérateurs de particules, évidemment, on regarde et on s'aperçoit que l'intensité relative devient essentiellement la même. Donc, à ce moment-là, on a une interaction qu'on appelle l'interaction électrofaible. C'est la même interaction au-delà d'une certaine énergie. Alors, en fait, ça s'arrête là. Là s'arrête notre le LHC apparaît à peu près juste là où vous voyez écrit électrofaible. C'est à peu près là. Donc la force forte et l'interaction électrofaible sont disjointes. Mais quand on calcule les choses, on s'aperçoit que on peut remonter et imaginer que en fait l'interaction électrofaible et l'interaction forte vont être réunies à une plus haute énergie encore. Ça va être toujours la même chose que pour l'interaction électrofaible. Et puis il y a la gravitation qui peut arriver. La gravitation, c'est extrêmement faible, c'est invraisemblablement faible, la gravitation. Donc, en général, on s'y intéresse pas du tout quand on est dans les accélérateurs de particules. Mais si on grimpe à vraiment des énergies extraordinaires, on peut avoir une force super forte ou grande unifiée, très grande unifiée, ou je sais, généralement, les gens ont tendance à appeler ça des théories du tout, qui unifient toutes les forces, y compris la gravitation. Et par exemple, ce sera la théorie des cordes dont je vais parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il y a une notion de symétrie qui rentre en jeu dans les interactions. Et je vais revenir sur des choses plus bassement terre à terre, mais comme vous le savez, quand la température, quand on prend de l'eau, comme ça par exemple, ça c'est une bonne idée d'ailleurs, quand on prend de l'eau liquide, et que si vous êtes sous l'eau, vous pouvez regarder, même au niveau moléculaire, dans une direction ou dans une autre, vous verrez essentiellement la même chose. Il y a une symétrie, une très grande symétrie, qu'on appelle une symétrie par rotation. Vous pouvez regarder dans toutes les directions, vous voyez la même chose. Maintenant, quand vous faites baisser la température, ce que vous faites donc, c'est réduire la vitesse des différentes molécules d'eau les unes par rapport aux autres. Par contre, les interactions entre les molécules d'eau, elles dépendent déjà un petit peu de la vitesse, mais pas énormément, mais surtout, quand deux particules vont très vite l'une à côté de l'autre, elles peuvent se rater. Mais quand elles commencent à aller plus doucement l'une à côté de l'autre, elles peuvent avoir tendance à interagir plus fortement. C'est aussi en ce sens que l'énergie, que les intensités relatives des forces peuvent dépendre de l'énergie, et donc de la température. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le système se bloque et atteint un nouvel état d'équilibre, qui est donc cette cette structure que vous ne voyez absolument pas sur cet écran, mais j'en suis désolé, mais que normalement vous devriez voir. Vous voyez les molécules d'eau qui forment le réseau qui est ici. Et ce réseau, c'est évidemment rien d'autre que de la glace. Et là, on a fait ce qu'on appelle une brisure de symétrie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une symétrie de rotation, c'est-à-dire partout où on regardait, dans toutes les directions où on regardait, eh bien, on voyait toujours la même chose. Une fois qu'on a baissé la température, vous voyez bien que suivant que vous regardez dans les directions des plans sur lesquels sont les molécules ou entre ces plans, vous ne voyez pas la même chose. La structure n'est pas la même. Donc vous avez brisé ce qu'on appelle briser une symétrie. Alors, ce qu'il faut voir en plus, c'est qu'évidemment, les plans qui sont mis les uns à côté des autres comme ça ont brisé la symétrie, mais ils auraient pu la briser dans une autre direction. C'est en ce sens qu'on retrouve la symétrie qui est quand même là. Un exemple simple, c'est si je prends un stylo comme ça et que je le pose là, si j'arrive, hein, évidemment, à le poser comme ça, je peux pas, évidemment. Si je le tiens comme ça et que je le lâche, la symétrie, il y a une symétrie de rotation tout autour de ce stylo. Et je sais que si je lâche le stylo, il va tomber. Mais je suis incapable de vous dire dans quelle direction il va tomber. Et si je le lâche, il tombe dans une direction. Si je recommence aussitôt derrière, il tombe dans une autre direction. Et en fait, en tombant dans une certaine direction, il définit lui-même une certaine direction, et donc ça brise la symétrie de rotation qu'il y avait autour de ce stylo. Mais évidemment, il pouvait le faire aussi bien là que là, et ce faisant, en fait, on voit d'où vient cette symétrie. Alors, en physique des particules, on fait ça avec ce qu'on appelle le champ de Higgs, d'où le boson de Higgs. C'est un champ qui a certaines caractéristiques. C'est un champ scalaire. C'est un peu comme, ce qu'on appelle un champ scalaire. C'est comme imaginer, je sais pas, un champ de température. Vous donnez la température, vous savez, sur quand on donne les cartes de température en météo, on donne la valeur de la température en tout point de l'espace. Bon, ben voilà, c'est pareil. Et alors, ce champ, il a la caractéristique d'évoluer dans ce qu'on appelle un potentiel. Qui est un potentiel de brisure de symétrie. Alors, ce potentiel, donc, à cette allure-là, et vous voyez qu'il y en a deux. Il y a un potentiel à haute température, un potentiel à basse température. À haute température, au-delà d'une certaine température critique, qui est l'équivalent du 0 degré pour l'eau qui se transforme en glace, le potentiel est, forme comme un bol, et donc, la valeur du champ va être la valeur au minimum. Et le champ va prendre la même valeur partout, et c'est zéro, en l'occurrence. Et puis, quand la température baisse, eh bien, le champ va tomber exactement de la même manière que le stylo qui... Quand la température baisse, en gros, la température élevée, c'est quand je le tiens. La température baisse, c'est quand je le lâche. Donc, il choisit une direction privilégiée dans un espace... Alors, je suis désolé, c'est un petit peu un espace abstrait, puisque c'est un champ scalaire, un espace du champ, enfin, bref. Mais voilà. Et parce que le potentiel dans lequel il évolue, alors... dépendant. On appelle ça un potentiel en chapeau mexicain dans le reste du monde, parce que ça ressemble à un chapeau mexicain. En France, on aurait peut-être plutôt tendance à appeler ça un potentiel en fond de bouteille. Ça serait plus adapté. Mais voilà. Et quand vous avez ce genre de brisure de symétrie comme ça, voilà, c'est exactement ce qui va se passer dans l'univers. Et cette brisure peut générer des défauts. Alors maintenant, j'en viens... au problème des défauts. Le principe des défauts, c'est exactement le même que c'est une brisure de symétrie. Donc j'ai pris un exemple très simple, qui est celui d'un banquet au cours duquel on porte un toast. Et on peut imaginer que chacun a un verre devant lui, deux verres, pardon. Et il faut, quand quelqu'un va importer un toast, si la table est suffisamment grande, la première personne prend son verre, et puis tout le monde va prendre son verre plus ou moins en même temps. Et puis, à un certain endroit, les gens vont faire essentiellement ce que font le voisin. Et puis, à l'autre bout, ils vont faire ce que fait aussi le voisin. Mais il peut se faire que le voisin n'ait pas fait la même chose. Et donc, certaines personnes ont pris le verre de droite et d'autres ont pris le verre de gauche. Et évidemment, quand ça se rencontre, eh bien, vous avez deux endroits où une personne se retrouve avec aucun verre, puisque l'un a pris le verre de droite, l'autre le verre de gauche, donc ils n'ont plus rien. Et de l'autre côté, il y en a un qui se retrouve avec deux verres. Voilà. Et ça, ça a l'air tout simple comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un défaut topologique. Ici, c'est ce qu'on appellerait un monopôle. Ce serait l'équivalent en cosmologie de ce qu'on appelle un monopôle magnétique. Donc, c'est juste une question de porter un toast, en l'occurrence. Hein. Alors, un petit peu plus compliqué que ça, mais pas énormément. C'est un mécanisme qui a été proposé donc par Tom Keeble en 1976. Oui, donc, cette transition de phase, la transition de phase, c'est ce que je disais, c'est comme donc l'eau qui se transforme en glace. Vous voyez ici, j'ai reproduit le potentiel donc en fond de bouteille, puisqu'on est en France. Ce potentiel en fond de bouteille, il y a la transition qui se passe, et dans différentes régions de l'espace, notre champ va choisir différentes valeurs. C'est ce qu'on voit dans les différentes. Il existe ce qu'on appelle une longueur de corrélation, c'est-à-dire où, par définition, l'objet n'est plus corrélé avec lui-même sur une très grande distance. C'est dans le banquet, dans l'exemple du banquet, si vous mettez 250 personnes, il est évident que les gens vont pas voir quel est le verre qu'ils ont pris à une cinquantaine de personnes de distance. Donc la longueur de corrélation pour le banquet, ce sera 50 personnes. Bon, ici, ce sera des distances un petit peu plus petites. J'y reviendrai, mais je vais même y revenir dans très peu de temps. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans certaines circonstances, c'est un peu comme dans un, quand vous avez un fluide avec genre de l'eau qui coule, et puis vous faites un écoulement de baignoire, tout simplement, et puis quand vous ouvrez la bonde, l'eau commence à tourner, et elle va se mettre à tourner en formant des spirales. Et c'est exactement ce qui va se passer là. Et en fait, on va former un type de défaut, comme ça, qui va être extrêmement localisé. Quand je dis extrêmement localisé, je veux dire par là que son épaisseur, en l'occurrence, on peut la calculer, puisque c'est des objets qui nous viennent d'à peu près la grande unification, et son épaisseur est d'à peu près 10 puissance moins 32 mètres, c'est-à-dire en chiffres peut-être un peu plus compréhensibles, ce qui n'est pas très clair, que vous pouvez en mettre 100 millions de milliards dans un proton. Vous voyez, un proton, c'est pas gros. Hein. Un proton, c'est vraiment ridiculement petit. Et vous pouvez donc faire passer 100 millions de milliards de cordes, comme ça, c'est ce qu'on appelle des cordes cosmiques ici, dans un proton. Donc c'est énorme. Enfin, c'est petit. Par contre, ce qui est énorme, c'est qu'on peut calculer maintenant l'énergie de cet objet, et on voit que l'énergie est très, très localisée. Évidemment, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va appeler ça une corde. Et l'énergie est très localisée, donc... Comme je vous ai dit, donc vous pouvez en faire passer 100 millions de milliards dans un proton. Et par contre, l'énergie elle-même est gigantesque. C'est-à-dire que il y en a, si mes souvenirs sont bons, c'est quelque chose comme 10 millions de milliards de tonnes par mètre. Autrement dit, si vous avez 10 kilomètres de corde cosmique, vous formez la masse de la Terre. Et pour un objet que vous ne voyez même pas tellement il est invraisemblablement fin. Donc vous imaginez... Ensuite, ces objets-là vont se promener à peu de choses près à la vitesse de la lumière dans l'univers. Alors, ils vont se rencontrer, ils vont se croiser. Alors, j'espère que ça a démarré. Oui, voilà. Quand ils se croisent, quand deux objets comme ça se croisent, ce qu'ils font, c'est qu'ils échangent les extrémités. J'espère que c'est à peu près clair sur les diagrammes qui sont là. On le voit bien ici sur la simulation. Et vous voyez que, en ce faisant, ils échangent leurs extrémités et ils se mettent à fabriquer des boucles. Et puis, on peut toujours calculer comment ça marche. Et ces machins-là bougent. Et comme ils bougent, ils émettent du rayonnement gravitationnel, du rayonnement de tout un tas. Vous voyez, j'ai nommé des actions ici, qui sont des particules hypothétiques. Enfin, les physiciens, théoriciens ont une mauvaise habitude ou bonne habitude, ça dépend du point de vue, d'inventer tout un tas de particules différentes. Et ces objets-là peuvent toutes les rayonner. Donc, on peut quand même s'en servir. Alors, un petit détail quand même. Vous pourriez avoir l'impression, avec les chiffres que je viens de vous citer, qui sont des chiffres qui viennent de la grande unification, que je dis un peu n'importe quoi et que je suis parti dans des affabulations délirantes. C'est pas impossible d'ailleurs, mais au moins, il est aussi intéressant de savoir que ces objets existent par ailleurs. Alors, pas avec les mêmes caractéristiques, évidemment, mais dans un cristal liquide, comme celui-là, dont j'ignore les caractéristiques d'ailleurs, mais... On peut faire des photos, ça c'est des photos qui ont été faites, où on voit exactement ce type de défaut. Donc vous voyez non seulement des défauts tels qu'ils existent, et puis quand on pointe particulièrement sur deux défauts qui interagissent, et bien vous voyez qu'ils font exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils échangent les extrémités, ils vont fabriquer des boucles, etc. Alors, quand vous avez toutes ces boucles qui sont fabriquées, et bien vous regardez l'évolution dans l'univers. Et l'évolution dans l'univers, ça va vous faire... L'univers, je l'ai dit que l'univers était en expansion. Vous avez fabriqué des boucles et des cordes. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le système atteint ce qu'on appelle un régime d'échelle. Le régime d'échelle, c'est-à-dire que les propriétés statistiques de toutes ces cordes, cet ensemble de cordes cosmiques dans l'univers, c'est essentiellement les mêmes propriétés statistiques à chaque instant, juste avec un facteur d'échelle entre les différents temps. Donc une fois que vous avez compris quelles étaient les caractéristiques de ce régime au départ, eh ben vous savez toujours ce qui va se passer. Et donc, ici, on peut faire donc une évolution numérique. Voilà, on met des conditions initiales. On considère un univers ici, c'est une partie de l'univers. Alors vous voyez qu'on a mis, c'est bien une grille, hein, et puis on a mis des cordes cosmiques dessus, au point de départ. Et puis on va faire évoluer cette grille. Et alors, toutes les cordes qui rentrent et qui sortent par une face restent blanches, et toutes les cordes qui sont plus petites qui sont des boucles en fait plus petites, toutes complètement contenues à l'intérieur de la simulation, vont devenir rouges. Vous voyez ? Et voilà, donc on va lancer l'expansion. Donc l'univers est en expansion ici, et le réseau de cordes se met à augmenter. Il y a les cordes blanches, il y en a de moins en moins. Les rouges, quand elles sont trop petites, elles sont supprimées du calcul pour pas parce qu'elles gênent un petit peu, sinon. Mais je vous montre après ce qui reste. Et vous voyez que l'évolution du système, éventuellement, essentiellement, c'est voilà, ben il y a des petites cordes qui bougent dans tous les sens. Alors quand je dis petites, il faut quand même être clair. La taille caractéristique, la taille de la boîte qui est calculée ici, c'est le rayon de Hubble de l'univers, c'est-à-dire, en l'occurrence, quelque chose comme 15 milliards d'années-lumière. Donc petit par rapport à 15 milliards d'années-lumière, ça peut rester gigantesque, hein, par rapport à nos valeurs à nous. Hein. Donc c'est quand même pas... mais vous voyez l'évolution de ces objets-là. On va peut-être arrêter là. Voilà. Donc voilà l'univers à la fin... De l'ère de rayonnement, dans un cadre où il y a des cordes cosmiques, évidemment. Le même à la fin de l'ère de matière. Et alors, comme je vous ai dit, c'est des objets absolument phénoménalement massifs. Et là, les vitesses caractéristiques que vous ne voyez pas, mais c'était l'ordre de grandeur, c'était entre la moitié et 80% de la vitesse de la lumière. Donc vous avez des objets absolument gigantesques qui traversent l'univers à la vitesse de la lumière et qui sont très massifs. On s'attend évidemment à ce que ça fasse quelque chose en cosmologie, évidemment. Et ce que ça fait, en fait, c'est tout à fait paradoxal, parce que ce que ça fait, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, aussi lourd soit-il, il faut toujours... Je vous ai dit qu'il y avait des unités naturelles tout à l'heure. Et là, le lourd en question, en fait, ça représente quelque chose qui est un cent millième de l'échelle caractéristique de Planck. C'est-à-dire une masse de Planck par longueur de Planck. Or, c'est cette échelle de Planck qui caractérise les interactions gravitationnelles. Donc là, finalement, le facteur qui va intervenir naturellement, c'est un facteur un cent millième. Mais c'est intéressant parce que vous vous rappellerez que sur les fluctuations que j'ai montrées, les fluctuations du fond diffus micro-ondes, elles sont très exactement à cette échelle-là. Et ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout demandé ça pour ça, et on est tombé sur ce chiffre-là complètement par hasard. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau gravitationnel, quand vous avez un objet qui est une corde, qui est un objet extrêmement massif, extrêmement fin, en fait, il a des propriétés très, très, très particulières. C'est-à-dire que normalement, quand vous prenez une corde quelconque, un fil quelconque, que vous le faites bouger, la densité d'énergie dans la corde, dans l'objet, est considérablement plus grande que la tension. Normalement, on n'y pense pas à ça, mais quand je dis la densité d'énergie, j'inclus aussi l'énergie de masse. Donc je prends la densité d'énergie que je multiplie par la vitesse de la lumière au carré, et donc, encore une fois, c'est E égale mc2, et ça nous donne une énergie considérable par rapport à la tension. La tension de la corde elle-même, quand on l'exprime dans les mêmes unités, elle est ridiculement petite. Dans une corde cosmique, c'est exactement la même chose. C'est le même objet. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous faites vibrer une corde comme ça, les ondes, le long de la corde, comme une corde de guitare, se propagent à une vitesse extrêmement faible. Et c'est cette vitesse qu'on peut calculer comme étant le rapport, essentiellement, de la densité d'énergie par la densité par la tension. Mais pour une corde cosmique, c'est les deux mêmes. Donc, si c'est les deux mêmes, dans les unités dont je parlais, en fait, ça veut dire que si on fait une petite perturbation le long de la corde, cette petite perturbation va se propager à la vitesse de la lumière. Et alors, ça induit comme effet que, en relativité générale, il n'y a pas que la masse qui gravite. En physique newtonienne, il n'y a que la masse qui gravite. En relativité générale, toute forme d'énergie gravite. Or, la tension d'un objet, c'est une forme d'énergie. Donc, en relativité générale, autour d'une corde cosmique, ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, la masse gravite, la tension gravite, mais pas dans le même sens. Et finalement, quand vous faites le calcul, eh bien, il ne reste plus rien. En gros, si vous avez une corde cosmique, donc comme je vous disais, c'est un objet de je ne sais plus combien de 10 millions de milliards de tonnes par mètre, et vous êtes à 10 cm du truc, vous ne sentez aucun effet gravitationnel. C'est quand même assez intéressant. Par contre, la corde bougeant très vite, là, ça peut se voir. Et ce qui va se passer, comme on le voit ici, en fait, ce qui se passe, c'est que l'espace-temps autour de la corde est un espace-temps plat. Mais si vous en faites le tour de la corde, et que vous comptez, normalement, quand on fait le tour, quand on fait un cercle, le périmètre, c'est 2π fois le rayon. Et puis là, si vous faites le tour, c'est 2π, c'est un tout petit peu moins que 2π. Pas beaucoup, c'est 2π moins, justement, 1/100 millième. Le fameux 1/100 millième dont on parlait tout à l'heure. Mais ça reste une toute petite valeur, mais une valeur non nulle. Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a donc un angle manquant. Et ce qui fait que, comme on peut le voir, je ne sais pas si ces diagrammes sont très très clairs, mais puis en plus, ils ne sont pas en français, j'en suis navré. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un angle manquant. C'est-à-dire que si vous avez une corde qui est là, et que vous faites passer un rayon lumineux à côté, le rayon lumineux va être un tout petit peu défléchi. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et si vous faites ça sur beaucoup de cordes, vous obtenez plein d'effets possibles. Alors, il y a eu, en 2003, je crois, il y a eu une polémique avec des images doubles qui avaient été supposément observées. Les gens pensaient que c'était dû à des cordes, etc. Donc, il y a eu une grande discussion dans la communauté pendant plusieurs mois. Et puis, quand ils l'ont regardé au HST, en fait, ça a été résolu en 5 minutes. Donc, pour l'instant, malheureusement, je suis contraint et forcé de vous annoncer que nous n'avons jamais observé de tels objets. Donc, on avait mis en place... On avait essayé d'avoir une petite idée amusante il y a quelques années où on essayait de voir si on avait une image double qui venait d'une corde, s'il pouvait y avoir des configurations dans lesquelles cette image pouvait se mettre à bouger spontanément. Donc on avait fait un petit calcul comme ça et on avait vu que oui, il y avait des configurations où vous aviez une image double comme ça qui tout d'un coup, sur un intervalle de temps d'un an, pouvait faire quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est le petit dessin qui est là. Mais évidemment, on n'en a jamais observé, malheureusement. Maintenant, si je reviens à la distribution de cordes, telle que j'en parlais au départ. Maintenant, j'ai toute cette distribution de cordes qui est derrière moi, et je fais passer le fond diffus micro-ondes là-dedans. Quand je le fais passer, ça va avoir des effets. Alors, après, j'ai mis deux diagrammes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces diagrammes, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut calculer des choses avec. On peut calculer l'effet sur ces diagrammes, l'effet des cordes sur le fond diffus, et vous avez... plusieurs courbes ici à comparer aux données observationnelles. Donc, vous voyez les points avec les barres, ce sont les données observationnelles. Évidemment, c'est présenté de telle manière à vous donner l'impression que c'est mieux avec des cordes que sans. Hein, mais c'est quand même relativement vrai. Dans l'état actuel des choses, évidemment, tout cela sera totalement clarifié par Planck. On peut l'espérer, tout au moins. Alors, de toute façon, les données viendront d'ici peu. Alors. Je vais revenir sur la physique des particules, parce que la physique des particules, je vous ai dit donc que je pouvais toute la résumer en un transparent, qui va être essentiellement celui-là. Et comme je vous ai dit, on peut calculer les intensités relatives des interactions. Donc c'est ce nouveau diagramme qui est là. On calcule les intensités relatives des interactions, et on se dit, quand on monte à très haute énergie, on a une seule et unique interaction, parce que les intensités relatives sont toutes les mêmes. Je vous ai un petit peu menti en faisant ça. Parce que, comme vous le voyez, quand on fait réellement le calcul, c'est vrai que ça arrive à peu près au même niveau, mais c'est quand même pas tout à fait vrai. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont proposé une nouvelle sorte de symétrie, ce qu'on appelle une supersymétrie. Je vais avoir du mal à rentrer dans ces détails-là, mais une supersymétrie, c'est une symétrie entre deux types de particules, entre des bosons et des fermions, ce qu'on appelle. C'est pas important de toute façon, mais il y a un nouveau type de symétrie qui, quand on la rajoute, et qu'on recalcule toutes les choses, ça nous donne ce nouveau diagramme. Donc, et ce nouveau diagramme, lui, il montre très clairement qu'il pourrait y avoir une unification, elle, parfaitement bien réussie, pourvu qu'il y ait cette nouvelle symétrie. Alors, je vous en parle aussi parce que, au LHC, elle est très recherchée. La supersymétrie, on en a entendu parler beaucoup pour le LHC. Pour l'instant, il n'y a que des contraintes, mais... Ça peut être un jour, c'est le LHC qui la verra probablement si jamais elle est là. Et alors avec ça, les gens, donc comme Monsieur Ed Wheaton ici présent, ont fabriqué ce qu'on appelle la théorie des supercordes. Et donc vous voyez que ça va être un peu la même chose. Alors supercorde, comme toujours. Donc voilà, Ed Wheaton, il est à Princeton, à l'Institute of Advanced Studies, c'est là où était Einstein. Donc On boxe quand même dans une catégorie élevée. Et quand vous voyez le mot super dans une théorie fondamentale, de physique fondamentale, ça veut toujours dire supersymétrique. Alors, en même temps, comme je ne vous ai pas expliqué exactement de quoi y retourner, mais je peux toujours le faire le cas échéant si vous avez des questions dessus, mais parce que sinon ça va nous amener trop loin. Donc voilà, c'est Witten en particulier, mais d'autres gens aussi, ont inventé l'idée de corde. Alors l'idée de corde et de supercorde, donc, c'est en physique des particules, normalement, on considère que les particules sont des particules ponctuelles. C'est-à-dire, si on les voit pas ponctuelles, c'est parce qu'on les regarde pas suffisamment, mais en réalité, on pense que c'est des particules ponctuelles. Et puis, on fabrique toute une théorie, toutes les théories dont je parlais, des interactions faibles, interactions fortes, interactions électromagnétiques, on a tout ça. Et puis, on a d'énormes problèmes pour mélanger les interactions, les diverses interactions qui nous viennent de la mécanique quantique avec la relativité générale qui est complètement différente. La relativité générale ne peut pas se mélanger à la mécanique quantique. Donc, une des tentatives qui a été faite au départ pour complètement autre chose, mais qui s'est avérée être fonctionner parfaitement, enfin curieusement bien, c'est de dire, et si, au lieu de que les particules soient des particules ponctuelles, elles étaient des cordes, c'est-à-dire des toutes petites boucles de cordes. Vous voyez, quand on prend ici, on prend un proton, et puis on a l'impression qu'on a trois quarks à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des quarks, voilà, bon, mais c'est les constituants les plus élémentaires qu'on connaisse. Et si, en réalité, si on était capable de regarder encore plus précisément à l'intérieur, est-ce que, par hasard, on ne pourrait pas voir des cordes ? Donc l'idée a été développée dans les débuts des années 80. Et alors c'est très intéressant parce que quand vous calculez des choses en mécanique quantique ordinaire, ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, vous calculez des interactions entre deux particules. Et vous voyez, par exemple, quand vous avez deux particules qui donnent une particule ou au contraire une particule qui se désintègre en deux particules. Et quand on calcule ce genre de petites choses là-haut, c'est pas facile à calculer. En particulier, de temps en temps, quand on calcule bêtement, je dirais, on trouve l'infini. Alors c'est un peu délicat, ça veut rien dire, et il faut appliquer un certain nombre de procédures mathématiques toutes plus bizarres les unes que les autres, qui marchent bien, mais qui sont quand même bizarres. Alors que si on remplace ça par des cordes, ici, eh ben il se trouve que tous ces problèmes d'infini qu'on avait disparaissent. Alors ça rend pas les calculs plus simples, mais au moins, il n'y a pas d'infini à supprimer de manière plus ou moins bizarre. Donc voilà, bah vous avez une nouvelle représentation qui apparaît. Vous voyez, à chaque fois, ces deux petites cordes comme ça qui se mélangent. Vous avez différentes catégories de cordes. En plus, les cordes peuvent être soit ouvertes, soit fermées. On peut, alors pour ceux qui connaissent, on peut toujours faire un développement, toujours comme en théorie quantique des champs, en cordes virtuelles, etc. Mais par contre, quand on fait un développement comme ça, avec plusieurs petites boucles qui interviennent en cours de route. Contrairement à la théorie quantique des champs, ce n'est pas un changement de structure, c'est juste un changement de topologie. Mais bon, ça c'est juste pour les gens que ça intéresse. Et par ailleurs, la théorie des cordes, elle peut faire apparaître plein d'autres objets, parce que si vous prenez une corde, une corde qui est suffisamment petite, vous la verrez comme un point. Mais dans la théorie des cordes, il y a aussi des membranes, par exemple. Et si vous prenez une membrane, genre un plan, et puis que vous l'enroulez sur lui-même et que vous le refermez suffisamment, eh ben vous verrez ça comme une corde. Donc en fait, une corde peut être aussi vue, si on la regarde de près, comme une membrane. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Il peut y avoir différents objets à différentes dimensions. Et quand on regarde, on essaye de former ça. Et alors, il se passe deux petites choses problématiques. La première, c'est que la théorie des cordes n'existe que à 10 dimensions, à 10 dimensions d'espace-temps. Aux dernières nouvelles, on n'en a que 4, donc c'est un premier problème. Et puis, quand on fait une théorie de cordes, qu'on essaye de la rendre de cordes ou de supercordes, qu'on essaye de la rendre mathématiquement cohérente, on s'aperçoit qu'il y a 5 théories possibles. Alors ça, c'est souvent vu comme un petit peu gênant, parce que 5 théories possibles, donc elles sont mises là, hein, leur nom n'a pas grand intérêt, elles ont des petites caractéristiques différentes les unes des autres, mais il y a 5 théories possibles, et en fait on s'est rendu compte que ces 5 théories possibles, il en existait une autre qui est ce qu'on appelle la supergravité à 11 dimensions, toutes ces théories pouvaient être reliées les unes aux autres. Alors, par ce qu'on appelle des relations dites de dualité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un certain régime d'une théorie, ça va vous donner à peu près la même chose que dans un autre régime d'une autre théorie. Alors, tout ça, c'est très compliqué, mais au final, tout ça, ça revient à dire que vous pouvez prendre les différents types de théories, et puis on estime, on pense, Alors, c'est pas clair a priori, mais on pense qu'il existe une théorie, ce qu'on appelle la M-théorie, qui regroupe toutes ces théories dans différents régimes d'approximation. Mais ça, c'est un espoir hein, qu'on a à l'heure actuelle. Alors voilà, donc on résume ça donc comme ça, par un petit diagramme bien joli qui montre en plus qu'il peut y avoir des relations entre les différentes théories. La question se pose de savoir ce que veut dire le M dans M-théorie. On a souvent les gens qui nous disent que ça veut dire de la mystère ou membrane ou n'importe quoi. Une autre hypothèse qu'on entend souvent, c'est que le M, quand vous l'inversez, ça va vous donner un W qui serait l'initiale de Witten, dont je parlais tout à l'heure. Bon, c'est possible, après tout. En tout cas, voilà l'état de l'art. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, je vous aurais juste une petite anecdote amusante. C'est voilà, les dimensions supplémentaires, il y en a 6, comme je vous ai dit. On a besoin d'avoir 6 dimensions. Et alors, pour gérer ça, comme on n'en voit que 4, ou 3 dimensions d'espace, il faut 6 dimensions de plus d'espace aussi. Et alors là, le truc, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Donc en fait, l'idée qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que ces dimensions sont compactes, c'est-à-dire qu'en chaque point de l'espace-temps, on va dire qu'en réalité, il existe un tout petit espace interne de dimensions supplémentaires à 6 dimensions. Alors, on peut illustrer ça avec si on avait 2 dimensions supplémentaires, par exemple, en prenant une structure soit en termes de boule, donc une dimension supplémentaire qui peut vous servir de ballon de foot ou de rugby, parce que c'est de toute façon la même chose, topologiquement c'est équivalent. Vous pouvez faire ça comme ça, mais vous pouvez le faire aussi avec une autre structure, qui est par exemple un tore. Et là vous voyez, je vous ai mis 2 dimensions supplémentaires, soit une boule, soit un tore, qui n'a pas la même topologie, et en chaque point de l'espace, vous associez 6 dimensions supplémentaires. Bon, là, vous pouvez faire des chambres à air aussi, il y a des usages. Quand vous êtes à 6 dimensions supplémentaires, c'est plus ennuyeux. Voilà l'exemple des objets que vous avez, c'est ce qu'on appelle des variétés de Calabi-Yao, du nom des gens qui les ont inventés, hein, qui ont des structures absolument abominables, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, par contre. Et alors, ces objets-là, ils sont extrêmement compliqués, et surtout, il y en a beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que voilà, il y a une théorie qu'on appelle du landscape, enfin du paysage, qui nous dit que, en fait, j'ai dit qu'il y avait essentiellement une théorie avec 5 ou 6 représentations possibles, mais au final, quand vous voulez faire des calculs, vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la théorie, vous avez besoin de connaître tous les détails de la théorie. Et là, il vous faut donc dire quelle est la forme des dimensions compactes. Et là, manque de chance. Il y a énormément de possibilités. Comme je vous ai dit, il y a à peu près 10 puissance 500 possibilités. Et là, vous partez d'une théorie qui était essentiellement unique et vous arrivez à 10 puissance 500 théories. Pour savoir laquelle est la bonne, ça ne va pas être facile. Il faudrait tout calculer dans toutes les théories et comparer ensuite à ce qu'on observe. En gros, on perd beaucoup de prédictivité. C'est pas très très simple d'utiliser ça. C'est possible, hein. Il y a certainement des. Pour l'instant, on n'a pas encore tout compris. Et moi, encore certainement moins que d'autres. Mais il y a quand même beaucoup de complications. Maintenant, en fait, ces vides différents, ils permettent d'apporter une solution au problème qu'ils posent eux-mêmes. Parce que comme il y a des dimensions supplémentaires comme ça, ces dimensions, elles sont évidemment toutes petites, mais elles sont pas forcément si petites que ça, paradoxalement. Or, quand on fabrique des cordes, ben, la corde, elle bouge dans tout cet espace. La corde, elle est toute petite et elle voit vraiment toutes les dimensions supplémentaires. Mais quand elle va bouger dans les dimensions supplémentaires, vue de l'extérieur, elle va rester une corde, mais plus légère. Curieusement, on ne va la voir que comme un effet de projection. On aura l'impression qu'elle est beaucoup plus légère que ce qu'elle est. Et du coup, eh ben, on va la voir, on peut éventuellement la voir comme une corde cosmique. Exactement de la même manière. Avec des petites différences entre les deux. Donc on va pouvoir la voir essentiellement comme une corde cosmique. Et donc tout ce que je disais préalablement sur les cordes cosmiques qui viennent de la physique des particules plus ordinaires, à plus basse énergie, eh ben, on les retrouve exactement dans les supercordes. Et on peut ensuite avoir une possibilité qui est de considérer que les supercordes soient visibles en tant que cordes cosmiques. Et si c'est le cas, alors là, il y a même des gens qui ont été jusqu'à dire qu'observer une corde cosmique serait une vérification de la théorie des cordes. ce qui me paraît un tout petit peu abusif, parce que la théorie des cordes, il y en a beaucoup plus. Enfin, former des cordes cosmiques peut arriver dans tout un tas d'autres contextes. Mais l'avantage, je m'excuse pour le côté un tout petit peu rébarbatif de la fin, mais l'échelle d'énergie qu'on calcule peut être, vous voyez, elle est calculable sur environ 30 ordres de grandeur. Donc, ça peut être soit des cordes cosmiques totalement invisibles parce que beaucoup trop légères, soit des cordes cosmiques trop lourdes et donc déjà incompatibles avec les données, déjà exclues avec les données, comme les deux cas montrent. Et alors, en fait, ça reste quand même une possibilité. Et donc, je pense qu'on peut raisonnablement espérer que l'observation, les meilleures observations, en particulier donc celles qui vont être faites par Planck, pourront nous apporter des informations aussi bien sur les cordes cosmiques dont je parlais au préalable que peut-être sur les supercordes, si les cordes cosmiques qu'on observe ont certaines caractéristiques très particulières qui sont liées à ça. Alors, tout ça, évidemment, faudrait rentrer dans beaucoup plus de détails que je n'ai eu le temps de le faire, mais j'espère vous avoir convaincu que, vous voyez, la physique des particules et la cosmologie observationnelle telle qu'on l'a fait maintenant peut apporter énormément, peut apporter autant, voire plus, que la physique sur accélérateur et qu'on attend maintenant avec impatience les résultats de Planck, et je vous laisse avec ces images du satellite Planck qui est actuellement en train de prendre des données. Je crois qu'il a fini de prendre des données. J'en profite pour vous donner les références d'un petit livre donc que j'ai commis qui résume un petit peu aussi ce que j'ai dit ici pour une version un peu plus ancienne puisqu'il date maintenant de 2003, je crois. Et je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci Patrick pour cet exposé. Alors les internautes, j'espère, sont toujours avec nous. Bien sûr, ils ne peuvent pas participer directement, ne peuvent pas poser de questions, mais ils peuvent participer aux questions et aux réponses que nous allons débuter maintenant. Donc je laisse la parole à la salle, si une main se lève, poser une question. Voilà.
Ce n'est pas une, c'est une foultitude, mais enfin, je vais essayer de vous poser celle qui me préoccupe vraiment. Je croyais, avant de vous avoir entendu, que nos connaissances s'arrêtaient au temps de Planck, c'est-à-dire bien avant l'hypothétique Big Bang. Alors, ma question, est-ce que c'est ce que vous croyez ou pas ?
Non, le temps de Planck représente en effet, enfin le temps de Planck, l'énergie de Planck, tout de Planck, représente la limite de nos connaissances. En fait, ça représente même moins que la limite de nos connaissances, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à cet endroit-là. La limite de nos connaissances, c'est à quelques ordres de grandeur au-delà du temps de Planck, hein, quand même. Le temps de Planck, ça correspond essentiellement à ce qu'on pense être le Big Bang. En fait, le Big Bang est défini essentiellement comme... il y a le Big Bang, la singularité, quoi que ça veuille dire. Ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a un certain moment où les distances caractéristiques dans l'univers sont de l'ordre de la longueur de Planck, la température est égale à la température de Planck, tous les objets vont pratiquement à la vitesse de la lumière, etc. etc. En fait, le Big Bang est essentiellement défini par la température de l'univers est égale à la température de Planck. Et là, on a tendance à dire, voilà, ça arrive au temps de Planck. Mais en fait, non, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'histoire thermique de l'univers. Et on peut tout discuter en termes de température. Température, c'est l'énergie caractéristique d'échange entre les particules. Et ça définit très clairement ce qu'on appelle la température de Planck définit très clairement le Big Bang, parce que tout ce qui se passe avant, personne n'est, avant ou à plus haute température ou plus haute énergie, personne n'est en mesure raisonnablement de vous dire quoi que ce soit dessus. À part, il y a des gens qui le disent, mais bon.
Oui, bonsoir. J'ai pas trop compris, moi, la formation des cordes, en fait. Enfin, j'ai du mal à visualiser. Donc, si vous pourriez revenir dessus, ouais, s'il vous plaît.
La formation des cordes, quand vous avez je vous ai parlé qu'il y avait un champ scalaire qui est en fait un peu comme vous imaginez. Je peux peut-être faire un petit dessin ici, s'il y a de la craie. Comme vous imaginez comme vous avez un champ fluide de vitesse. Si vous avez un champ de vitesse, vous voyez, la vitesse dans un fluide va par exemple toute dans la même direction. Et puis pour une raison donc thermique, hein, l'endroit, le potentiel, dans le potentiel, vous pouvez aller dans différents endroits. Et vous imaginez que vous avez fait votre symétrie, votre brisure de symétrie, et toutes les particules prennent cette vitesse-là. Et puis dans une autre région, par là, toutes les particules vont prendre une autre vitesse, qui ne sera pas du tout la même puisqu'elle sera décorrélée, elle sera indépendante. Et donc, elles vont toutes être, mettons, par là. Et puis vous voyez que quand vous regardez sur l'ensemble de tout l'univers, par là, vous aurez peut-être que des particules par là, et puis là, vous aurez que des particules par là. Et vous voyez qu'au milieu, ce qui va se passer ici, là, vous aurez un endroit où la vitesse va être pas bien définie. Ça, c'est ce qui se passe quand vous formez un tourbillon, typiquement dans une baignoire qu'on débouche. Dans l'univers, il va se passer exactement la même chose. Je vous ai dit avec le champ là en question, qui part de là, et puis, alors je suis désolé, je suis pas très très bon en dessin, hein, bon, mais voilà, vous avez ce potentiel donc en fond de bouteille, et donc lui il peut aller là, là, là ou n'importe où. Et ça va être exactement la même chose dans l'univers. Donc ici, dans cette région-là par exemple, le champ va aller, mettons, ici. Et puis là, dans cette autre région, il va aller là. Et puis il va suivre comme ça. Et quand vous faites un tour, quand vous faites le tour complet, ce qui va se passer, c'est que le champ ici va faire le tour complet du minimum, là où il a le droit d'être. Et ce qui veut dire que quand vous faites le tour et que vous regardez ce qui se passe, c'est pareil qu'une petite flèche. Donc quand vous faites le tour, eh bien la flèche tourne de plus en plus vite autour d'un certain endroit, et il y a forcément un endroit à l'intérieur où cette flèche, où la direction dans laquelle vous tournez n'est plus définie. Donc ça veut dire que au lieu d'être sur le minimum qui est là, vous êtes sur le maximum là-haut. Vous êtes obligé d'être bloqué là-haut. Et quand on est bloqué là-haut, en fait là, le potentiel ici, c'est de l'énergie. Donc il y a de l'énergie ici, donc il y a un tube ici où il y a de l'énergie. Évidemment, parce que ça, je l'ai dessiné à deux dimensions, parce que je ne sais pas dessiner à trois dimensions, mais évidemment, ça se projette dans la troisième dimension. Et c'est comme ça que vous fabriquez une corde. J'espère que c'est un petit peu plus clair.
Est-ce que tu pourrais nous donner quelques indications de la manière dont Planck, par exemple, pourra mettre en évidence ou pas l'existence d'une corde? Parce que je présume, tu as donné l'exemple des étoiles, mais je présume que c'est... que tu attends avec impatience les données de Planck.
Donc, absolument. Absolument.
Voilà. Alors, si on peut revenir sur l'image de WMAP ou pas, j'en sais rien, mais quel va être le signal ou le type d'analyse qu'il va falloir faire pour dire, voilà, il y a des cordes.
Alors, on peut faire une petite analyse, petite non, mais on peut faire une analyse très, 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 très précise, où on voit l'image va donner une sorte de discontinuité. C'est-à-dire qu'on va regarder... Quand j'ai dit, si vous avez une corde qui passe quelque part par là, et vous avez la lumière qui arrive derrière, la corde, elle bouge, hein, je vous ai dit, à une vitesse qui est de l'ordre de 80% de la vitesse de la lumière. Donc c'est quand même assez rapide. Et vous avez la lumière qui arrive derrière. Donc ça, c'est la lumière du fond diffus micro-ondes. On voit la lumière qui est là, et nous, on est là. On observe le fond diffus micro-ondes ici, et la lumière traverse. Alors, quand la lumière passe à côté de la corde, dans une certaine région de l'espace, mettons, on regarde ici, voilà un champ qu'on observe. Et la corde traverse comme ça. Quand la lumière passe d'un côté, elle voit la corde passer à une certaine vitesse, mettons que la vitesse de la corde, c'est comme ça. Quand la lumière passe d'un côté, elle voit la corde s'éloigner d'elle. Quand la lumière passe de l'autre côté, elle voit la corde s'approcher d'elle. Et là, il se passe un effet qui est type comme l'effet Doppler, qui est le changement de fréquence. Vous savez, quand on entend passer un train qui arrive, la fréquence augmente puis diminue après. Et bien, c'est exactement la même chose. La fréquence va augmenter puis diminuer. Mais comme je vous ai dit, la fréquence, c'est essentiellement un temps. C'est le nombre d'oscillations par un intervalle de temps. Donc une fréquence, c'est comme si c'était un temps. Mais si c'est un temps, c'est comme si c'était aussi une énergie. Et comme c'est une énergie, c'est aussi une température. Et les cartes que je vous ai montrées, c'est des cartes de température. Donc en gros, vous allez voir dans l'espace une température telle qu'on l'observe, une température T1 ici et puis T2 ici. Donc ça va être deux températures différentes. Et il se trouve que vous pouvez calculer la différence de température, hein, la variation de température par rapport à la température ordinaire, eh bien celle-là va être proportionnelle, pardon, excusez-moi, je m'emballe, cette différence de température va être proportionnelle à la masse de la corde et sa vitesse. Et donc, en regardant de manière très très fine et très précise les images de Planck, on peut voir de temps en temps des discontinuités sur des très très petites distances, sur des très très petites distances angulaires. Et là, on peut espérer voir des sauts de température.
Si on revient, excusez-moi d'insister un peu là, mais si on revient sur l'image de WMAP que tu nous as montrée, sais pas si c'était WMAP,
oui,
je crois.
Oui, c'était WMAP.
Là, par exemple, est-ce qu'il faut que ce soit beaucoup plus fin que ça?
Il faut que ce soit plus fin.
Voilà.
Il faut que ce soit un petit peu plus fin.
Donc, ce serait des différences de température de quel ordre? Beaucoup plus fines que celles qui sont codées sur WMAP, j'imagine.
Non, c'est le même ordre de grandeur.
L'ordre de grandeur.
Mais par contre, ce qui est pas clair, c'est la distance angulaire sur laquelle on les voit.
Voilà.
C'est-à-dire que l'ordre de grandeur, c'est le cent millième, hein, quoi qu'il arrive. Donc la différence de température ici, ça va être le cent millième. Par contre, l'échelle de distance caractéristique va être toute petite. Et en plus, elle aura une structure particulière. C'est-à-dire que de là à là, ça sera essentiellement constant dans une direction avec le saut dans une autre direction.
Donc ça, en grosso modo, ça dessine des cordes, finalement.
En gros, ça dessine les cordes, exactement.
Voilà. Oui.
La disparité entre matière noire et théorie des cordes.
Alors, la matière noire, il y a beaucoup d'idées pour essayer de comprendre ce que ça peut être. Je résume pour les gens qui savent pas. Quand on regarde l'expansion de l'univers et qu'on essaye de le remplir, l'univers, avec de la matière telle que celle qu'on connaît, on s'aperçoit que ça suffit pas. Et quand on regarde, on compte, en gros, hein, on comptabilise toutes les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies et ces choses-là, qu'on calcule la somme de toutes les masses qu'il y a là-dedans, on arrive à quelque chose comme 5% de la masse de l'univers. Donc, autrement dit, il y a 95% de la masse de l'univers qui n'est pas de ça. Et donc, une grande partie de cette masse manquante est probablement, on estime, sous forme de matière noire. Et la matière noire, donc, on ne sait pas ce que c'est. On estime probablement que c'est constitué de particules, typiquement des particules supersymétriques, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, ce serait très naturel, la théorie des cordes prévoirait très naturellement une certaine composante de matière noire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la théorie des cordes, c'est 10 puissance 500 possibilités. C'est clair que dans le tas, il y en aura certainement une qui marche. Mais bon, c'est un peu facile.
Oui, bonsoir. J'arrive difficilement, malgré tout, à intégrer que des fermions, bosons, leptons et autres soient des cordes. Mais quid des bosons, et en particulier du boson de Higgs?
Alors, dans ce cadre-là, le boson de Higgs est aussi une corde comme une autre. Alors, dans ce cadre-là, plus particulièrement, en fait, toutes les particules sont des cordes, mais des toutes petites cordes, des cordes invraisemblablement fines, en fait, encore 1000 fois plus fines que des cordes cosmiques. Donc, complètement inimaginable en termes d'observation. Le boson de Higgs devient, dans le cadre de la théorie des cordes, une particule comme une autre. Donc c'est toutes les particules. En fait, le côté supercorde fait qu'il y a donc de la supersymétrie et que le boson de Higgs est associé à un partenaire qui va donc être un fermion. Et ces partenaires, comme les particules elles-mêmes, peuvent être vus comme des oscillations sur les cordes. Donc vous avez des toutes petites cordes qui vibrent d'une certaine manière. Et c'est un peu la même chose que quand vous prenez une corde de guitare, en la bloquant en différents endroits, vous fabriquez différentes notes. Là, c'est la même chose, vous avez une corde, une mini-corde, qui vibre de différentes manières, et dépendant de la manière dont elle vibre, vous la voyez, vous, comme un fermion, un boson, un truc X ou Y, vous pouvez voir plein d'objets différents, alors que c'est une seule et unique corde au départ. C'est pour ça que c'est une théorie qui est presque unique, parce qu'en fait, ce que vous regardez, c'est vraiment un seul objet, et qui vibre. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple que ça dans les mots. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, mais...
Le boson de Higgs, est-ce que ce serait le vecteur de la masse?
Oui, le boson de Higgs est la particule qui donne les masses aux particules, que ce soit dans le cadre de la théorie des cordes ou dans le cadre de la physique des particules ordinaires. En fait, ce qui se passe avec le boson de Higgs, il donne une masse de la manière en fait suivante, c'est que quand il est là, quand il vaut zéro, en gros, c'est-à-dire à haute température, les autres particules passent au travers de lui puisqu'il vaut zéro globalement. Et ensuite, à partir du moment où il prend une valeur non nulle, donc il va former des cordes aussi, mais indépendamment de former des cordes, il va prendre une valeur non nulle. Et à ce moment-là, les autres particules élémentaires qui sont couplées à cet objet-là vont le ressentir sous la forme d'une interaction. Et ça va être plus difficile pour elles d'avancer dans l'espace parce que l'espace va être maintenant rempli par ce champ de Higgs qui a pris une autre valeur. Et comme c'est plus difficile pour elle d'avancer, ça fait une sorte d'inertie plus lourde, enfin plus grande, et l'inertie, évidemment, c'est de la masse. Donc c'est comme ça. Du coup, toutes les particules, quand le champ de Higgs était à zéro, les particules avaient une masse égale à zéro et elles allaient à la vitesse de la lumière. Dès qu'il prend une valeur non nulle, les particules interagissent avec lui, ça les ralentit, Et comme ça les ralentit, bah du coup, elles vont plus à la vitesse de la lumière. Et si elles vont pas à la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'elles ont une masse.
Du point de vue de l'observation, comment faites-vous la différence entre ce que vous avez expliqué sur les différences de température et l'effet induit par les cordes et un autre effet de gravitationnel, de lentille gravitationnelle faible?
C'est un effet de lentille. C'est un effet de lentille, ça. C'est une lentille gravitationnelle, hein. On s'en cache pas, c'est un mirage. Vous avez la corde qui est au milieu, un rayonnement lumineux qui arrive d'un côté ou de l'autre, qui est dévié, et vous le voyez, vous, sous forme d'une image double. La différence entre une corde, par exemple, et puis une masse compacte qui serait au milieu, comme une galaxie ou quelque chose comme ça, c'est la suivante. Si vous avez une masse très compacte quelque part, vous êtes là à regarder, et vous avez ici, derrière, mettons une étoile, une galaxie, ou on va faire plutôt une galaxie, c'est plus joli, puis c'est plus facile à dessiner. Donc vous avez la galaxie qui émet la lumière comme ça, et la lumière est défléchie de cette manière-là. D'accord ? Donc quand vous regardez dans le ciel, ce que vous voyez, c'est la lumière qui vient de là, et puis de toutes les autres directions. Ce que vous voyez, c'est un arc, un anneau essentiellement. Vous allez voir un anneau comme ça, c'est ce qu'on appelle des anneaux d'Einstein ou des arcs d'Einstein. Maintenant, ça c'est vrai quand c'est une grosse structure de taille compacte finie. Si à la place de ça, vous avez une corde qui passe, eh bien il n'y a plus que ces deux rayons lumineux-là qui arrivent. Il n'y en a plus que deux. Et donc là, vous voyez une image double. Donc vous voyez juste deux images. Alors vous pouvez aussi dire que c'était peut-être une petite structure ici, moins étendue, où on n'a pas vu l'arc en entier, on a juste vu deux particules. C'est pour ça qu'on avait imaginé d'avoir une corde qui variait dans le temps. Parce que si elle variait dans le temps, à ce moment-là, l'image double, quand vous voyez les deux images comme ça, l'image double, elle pouvait se mettre à bouger de façon symétrique. Et pour que ça bouge de façon symétrique, on parle de distances qui sont cosmologiques. On avait une variation qui pouvait être de l'ordre de l'année, alors que c'était des distances cosmologiques. Ça, c'est strictement impossible si c'est pas une variation le long de la corde. Donc, en fait, c'est un effet de lentille, mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, dépendant de l'image que vous allez obtenir, vous pouvez reconstruire la source. Et la source, c'est soit une corde, soit un amas de galaxies, soit une galaxie, soit quelque chose comme ça.
Oui. Au vu de ce que vous nous avez expliqué là au tableau à gauche sur le champ des vitesses, est-ce que formellement on pourrait dire, toute chose bien nuancée et pesée par ailleurs, que la corde au sens, à très très petite échelle évidemment, serait un analogue formel de ce qu'on a par exemple en mécanique des fluides, l'œil d'un cyclone?
Absolument.
Par exemple, ou même lorsque vous avez un tourbillon qui vide votre baignoire, on sait bien que, théoriquement, la vitesse tend vers l'infini au centre, mais en fait, il y a un bloc qui tourne de manière solide et rigide. Est-ce que c'est une analogie formelle, mathématique correcte ?
C'est une analogie parfaite. En fait,
merci.
On peut même décrire ça comme... Parce que ce qui se passe, c'est que le champ de Higgs décrit en fait ce qu'on appelle le vide. Parce que pour nous, le vide, on a toujours l'impression que le vide, c'est quand il n'y a rien. C'est un peu rapide comme définition. En réalité, en physique, le vide, c'est l'état d'énergie minimum. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'état d'énergie minimum, il peut être multiple. Et en fait, en mécanique des fluides, c'est pareil. On peut définir en mécanique des fluides un vide qui va être aussi l'état d'énergie minimum. Et on a à ce moment-là des défauts topologiques exactement les mêmes. Les lignes de vortex qu'on observe en mécanique des fluides, c'est strictement la même chose. D'ailleurs, les mathématiques sont exactement les mêmes. On décrit ça, que ce soit le modèle de champ de Higgs tel qu'on l'utilise en physique des particules ou le modèle de Ginzburg-Landau en mécanique des fluides, c'est exactement la même chose. Mathématiquement, c'est strictement pareil.
Oui. Votre champ est irrotationnel, oui ou non?
Justement. C'est ce qui fait apparaître les défauts.
Est-ce que tu peux dire un mot sur la difficulté que rencontre le problème de l'énergie du vide dans la théorie de la supersymétrie?
Oui, je peux.
Tu peux? Je peux. Bravo.
Les théories supersymétriques ont ceci de bien qu'elles disent que l'énergie du vide est exactement zéro. C'est-à-dire que, bon, comme il existe cette symétrie entre particules d'un certain type et particules d'un autre type, l'énergie du vide, pour que cette symétrie soit respectée, doit être exactement zéro. Alors, le problème de l'énergie du vide, c'est un problème double. Il y a un problème qui est donné d'abord, qui est la mesure de l'énergie du vide, qui est ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique, où on mesure une accélération de l'univers, qui est donnée par une certaine valeur, une accélération très faible, mais qu'on peut mesurer. Et d'un autre côté, ça c'est la cosmologie. Toujours pareil, cette application, ce déplacement entre la cosmologie et la physique des particules. Et la physique des particules, elle, quand on calcule des choses, on peut calculer, comme j'ai dit, on définit le vide comme l'état d'énergie minimum. En physique des particules, c'est pas gênant. Parce que ça peut être n'importe quoi, de toute façon, c'est l'état d'énergie minimum. Et ce qui nous intéresse, c'est les particules, c'est les excitations sur le vide. Maintenant, en cosmologie, en relativité générale, le vide gravite aussi, puisque je vous ai dit, tout gravite en relativité générale. Tout et n'importe quoi. Donc, y compris le vide. Et à ce moment-là, vous voyez que quand l'énergie, bah évidemment, j'ai effacé le dessin, mais quand le niveau d'énergie est à un endroit ou à un autre, bah ça change tout en termes de gravitation. Et alors, en particulier, on peut calculer l'énergie du vide, l'énergie caractéristique du vide, et on obtient quelque chose qui est la plus fabuleuse, mauvaise prédiction qui existe en physique, c'est-à-dire qu'on fait une prédiction qui est fausse à 120 ordres de grandeur près. Donc c'est quand même pas bon. Mais par contre, alors quand on prend une théorie supersymétrique, on est content parce que on retombe à zéro. Donc d'un facteur 10 puissance 120, on arrive à zéro, donc on n'est pas mécontent. Le problème, c'est que la supersymétrie, on ne l'a pas observée. Donc si on n'a pas observé de supersymétrie, ça veut dire que la supersymétrie, comme les autres symétries dont je parlais, elle est brisée. Elle est brisée à une échelle d'énergie. En fait, je vous avais montré le diagramme avec les courbes qui s'unissent, là, qui se réunissent bien pour avoir la grande unification. Il y a une échelle caractéristique qu'on peut calculer pour avoir la bonne unification. Donc on sait à peu près quelle est l'échelle d'énergie de supersymétrie brisée. C'est à peu près, d'ailleurs, l'échelle d'énergie du LHC. C'est pas pour rien que le LHC a été fabriqué comme ça. Hein. On n'est pas non plus... le principe n'est pas juste de dépenser de l'argent. On essaie de faire aussi des choses un petit peu sérieuses. Et à cette échelle d'énergie-là, on a beaucoup gagné, c'est-à-dire qu'on n'a plus 120 ordres de grandeur d'écart entre la prédiction et l'observation, on n'en a plus que 60. En même temps, ça reste pas très très bon non plus, mais donc oui, la constante cosmologique, la supersymétrie peut aider, au sens où elle nous fait gagner 60 ordres de grandeur dans l'erreur. Mais c'est pas encore ça. Bon.
Trompez-vous encore, hein, disait Beckett.
Il faut continuer, oui.
Trompez-vous mieux.
C'est juste sur la connaissance des trous noirs. Est-ce que la théorie des cordes aide à la connaissance des trous noirs, en particulier des singularités ?
Eh bien, curieusement, oui. Curieusement, oui, parce que j'ai oublié de mentionner l'intérêt majeur de la théorie des cordes, ce qui est quand même un peu dommage de ma part, c'est d'unifier la physique des particules avec la gravitation. Et en particulier, en théorie des cordes, on estime qu'il y a plus de singularité. Quand on fabrique un trou noir, à l'intérieur du trou noir... Un trou noir, ça vient de l'effondrement d'une étoile, en particulier. Et donc tout s'écroule de telle manière que plus rien ne puisse en sortir, et parce que la vitesse de libération gravitationnelle devrait être supérieure à la vitesse de la lumière. Et quand on calcule en relativité générale pure, on s'aperçoit que toute la masse de l'étoile va se condenser au centre en un seul et unique point. Donc en un point mathématique, on va avoir une masse finie, donc une densité d'énergie infinie, une courbure infinie, tout ça va être totalement infini dans tous les sens, et encore une fois, c'est ce qu'on appelle une singularité. Et en théorie des cordes, en fait, quand on a des infinis partout, ça veut dire simplement qu'on est arrivé à la limite de la théorie. La théorie ne peut pas calculer ça, tout simplement. La relativité générale n'est pas suffisante pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ou à la singularité, parce que on estime qu'il doit y avoir des effets quantiques. Et là, à ce moment-là, c'est la gravité quantique qui rentre en ligne de compte. Et la théorie des cordes permet d'expliciter dans certaines situations très particulières, parce que encore faut-il, c'est bien beau d'avoir la théorie, mais encore faut-il être capable de résoudre les équations. Voilà, donc ça, c'est pas clair. Mais il y a des gens qui y travaillent.
Voilà, sur ces mots, donc on te remercie. Merci Patrick. Merci pour votre attention. Et rendez-vous dans un mois. Merci.